Nous sommes ici, au nom du peuple français, pour savoir ce qui s'est vraiment passé.
Un village français.
Je suis pas un homme de discours, mais aujourd'hui, le combat continue. Le combat pour nos valeurs, la liberté, l'égalité et, valeur suprême, la fraternité. Et pour commencer, j'aimerais rebaptiser une des rues de la ville, rue des Quatre du Maquis. Pour que la flamme de leur combat ne s'éteigne jamais, voilà. Et vive la résistance et vive la France.
Un village français en 1945. En 2009, quand commença la diffusion sur France 3 de la première saison, la fabrication de la suite n'était pas encore définitivement actée. Depuis, sans pulvériser tous les records d'audience, la série s'est attachée à un public fidèle, 3,5 millions de téléspectateurs aux dernières nouvelles, mais le principe d'incertitude demeure. Chacun sait bien comment la Seconde Guerre mondiale va se terminer. Cependant, le destin des différents personnages de la bourgade du Jura où a lieu l'action n'est pas coulé dans le bronze. Il y a, on le sait, une histoire conçue comme une suite de leçons qui, soit dit en passant, sont guère écoutées. Les écrans en ont abusé. Et une histoire envisagée à la manière d'un exercice d'interrogation personnelle. Suis-je capable de me mettre à la place des autres dans une époque autre, avec des ressorts qui ne sont pas les miens? C'est ce choix qu'a fait un village français. Et il est à l'origine du succès. L'horizon du téléspectateur n'étant pas fermé par des jugements moraux, la possibilité lui est donnée de partager les questions qui ont été celles des contemporains de l'occupation. D'autres partis pris historiques délibérés ont été aussi décidés au départ ou à mesure par le triumvirat responsable de la série, producteur, scénariste, réalisateur. Maintenant qu'est diffusée la 7e et dernière saison, il est possible d'en faire l'inventaire qui, en d'autres temps, aurait certainement provoqué la polémique.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Fabrice Grenard, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Historien bien connu des Maquis, très beau livre sur le colonel Guingouin dans le Limousin. Vous publiez 100 questions sur l'occupation chez Talendier. Vous n'êtes pas seul, mais enfin, on parlera de votre coturne dans un instant. 100 questions sur l'occupation, on voit que souvent, vous êtes dans une histoire à hauteur d'homme. Il s'intéresse aux faits de société, comme disent les journalistes. Et c'est d'ailleurs l'intérêt d'un village français de se placer à cette même hauteur d'homme.
Exactement, d'essayer de comprendre quelle a été l'attitude, le comportement d'un petit notable local, un maire de village, un paysan, un petit chef d'entreprise. Et justement, la force de la série, c'est aussi, en se plaçant autour d'hommes, de créer une forme d'empathie avec les personnages, quel que soit d'ailleurs leur engagement.
Alors, il y a eu une consultante en psychologie, Violaine Bellet, qui veillait à ce que le parcours des personnes coïncide à peu près avec les traits de leur caractère. Et puis d'emblée, un conseiller historique qui s'appelle Jean-Pierre Azéma, c'est le coturne, celui qui a écrit avec vous 100 questions sur l'occupation. Jean-Pierre Azéma, par ailleurs, avait beaucoup aidé à la publication chez un excellent éditeur aussi, Viviane Ami, de la déposition de Léon Werth. Léon Werth, c'est le dédicataire du Petit Prince, c'est un grand ami de Saint-Exupéry. Il se trouve, ce n'est pas un hasard, qu'il s'est replié dans une bourgade du Jura, qui s'appelle, du joli nom de Saint-Amour.
Dans le Revermont.
Mais Azéma, quand il a indiqué les pistes aux producteurs, réalisateurs, scénaristes de localisation possible, a insisté sur le Jura à cause de Léon Werth.
Alors évidemment, Jean-Pierre Azéma a participé de la réédition de cet ouvrage, il a écrit la préface, donc c'est un territoire qu'il connaissait bien. Et ce territoire du Jura offre de nombreux avantages pour comprendre la période. On n'est pas loin de la ligne de démarcation et il y a beaucoup d'enjeux qui vont se jouer par rapport à cette frontière intérieure imposée par les Allemands. On n'est pas loin de la Suisse et la Suisse, c'est la seule petite porte vers la liberté au cœur d'une Europe totalement occupée par les Allemands. Et puis on est dans une France moyenne et rurale qui symbolise un petit peu ce qu'a été la France de Vichy.
Et puis c'est dans une région aussi où on peut écouter plusieurs radios. On n'écoute pas beaucoup la radio dans un village français, mais Azéma aurait pu signaler plus fortement encore aux producteurs qu'on écoutait Radio Paris, Radio Vichy, Radio Londres avec difficulté, mais aussi la radio suisse, Radio Sautin, ce qui a beaucoup d'importance.
Bien sûr, notamment le journaliste René Payot. Il voilà. Était très écouté.
Alors, c'est pas Saint-Amour. On se permettra de citer Léon Werth régulièrement, qui est le lieu d'un village français. C'est Villeneuve, à moitié bourgade, à moitié
sous-préfecture.
On est ici, première saison, un des premiers épisodes, le 24 juin 1940, en pleine débâcle, et on va entendre deux des acteurs principaux du grand système choral d'un village français. Ils sont dans l'église, où sont réfugiés, beaucoup de gens venus d'un peu partout.
Ah, docteur, inspecteur marketing, nous sommes vus il y a deux semaines à la Syrie Schwartz. Vous faisiez un accouchement, vous souvenez ?
On épouse.
Sacré bordel, hein ? Le curé s'est fait tuer par une balle perdue la semaine dernière.
Et le maire ?
Évaporé. J'ai fait passer des messages à tous les adjoints et... C'est bien que vous soyez là.
Et de Kerverne ?
Je sais pas. Ah si, si, je sais. Je l'ai vu tout à l'heure, il était ivrement.
Mais que veulent tous ces gens ?
Ah, ce sont des blessés, des malades, des sans-abri. Beaucoup de réfugiés. J'essaie de les faire partir au maximum, mais il n'y a rien à faire.
Qu'est-ce qu'on fait ?
Inspecteur Barchetti, qui va nommer un peu de sa propre autorité l'excellent docteur Daniel Larcher, qui réagit très bien dans cette situation de panique. Et puis on voit déjà apparaître tous les noms qui sont familiers aux téléspectateurs de France 3, le sieur Schwartz, sieur avec un C, Kerverne, Hortense, la femme de Larcher. Tiens, il y a juste un personnage qui n'est pas là parce qu'il s'est évaporé pendant la débâcle, c'est le curé. D'ailleurs, grande ellipse, on est dans le Jura, la Franche-Comté catholique, il n'y a pas de catholique dans cette série.
Oui, une région plutôt rurale, plutôt catholique. C'est vrai que on ne saisit pas bien les enjeux par rapport à la position de l'Église au cours de la période. Enjeux qui là aussi sont très complexes parce que si d'un côté la hiérarchie est plutôt... favorable au régime de Vichy, à la Révolution nationale, au début de l'occupation. Si on s'intéresse à ce qui se passe sur le plan local, on voit beaucoup de curés s'engager pour aider des prisonniers de guerre évadés, pour aider des gens à passer la ligne de démarcation. Et même parfois, les premières cellules de résistance peuvent se constituer autour d'un curé.
Alors Jean-Pierre Azéma a insisté, plus de curés, mais il a ajouté, ils doivent avoir un tropisme communiste, il n'y a pas moyen d'introduire des curés. La vie va s'organiser au jour le jour. Le journal de Léon Werth, octobre 40. Le bourg, si inquiet il y a quelques jours de ce qu'il mangerait l'hiver prochain, ne pense plus à l'hiver prochain, il vit au jour le jour. Le temps depuis l'armistice n'est plus du vrai temps, c'est du temps qu'on passe dans une gare quand on attend le train. Et Léon Werth ajoute, c'est tellement débilitant que je me dis, j'aurais dû ne pas rester, il n'y a de France qui vaille qu'en en quittant le sol.
Oui, bien sûr. Effectivement, on vit au jour le jour, au lendemain de la défaite, qui est un véritable traumatisme, qui crée de l'abattement, on le sent dans cet extrait chez les Français. Il y a une sorte de grande régression. C'est comme si on retournait sous l'Ancien Régime avec des préoccupations totalement primaires qui sont de survivre, qui sont de manger, qui sont de se loger, qui sont d'échapper à une possible arrestation. Et on voit bien qu'il y a un décalage du coup au niveau des préoccupations des Français ordinaires qui deviennent les restrictions, le ravitaillement, la survie et qui ne sont pas forcément au départ résister, collaborer, les grands enjeux idéologiques de la période.
Et surtout qu'il faut qu'une partie de la production passe aux Allemands. Je citais le sieur Schwartz. Alors, il commence en fournissant du bois à la Wehrmacht. Et lui, il s'entend moins bien avec le représentant de la Wehrmacht. Et le sous-préfet et le chef du SD allemand, Heinrich Müller, lui suggère une autre piste.
Oui, mais il faut bien comprendre le contexte économique de la période. La France est fragmentée. Les régions n'échangent plus entre elles, il n'y a plus de débouchés extérieurs. Et donc, pour beaucoup de chefs d'entreprise, la seule possibilité pour pouvoir continuer à faire à la fois fonctionner leur entreprise, mais aussi faire travailler leurs ouvriers, c'est d'accepter les commandes allemandes. À la fois pour obtenir des matières premières, parce que ce sont les Allemands qui contrôlent l'approvisionnement des matières premières, et puis tout simplement ensuite, pour pouvoir vendre, pour pouvoir obtenir de nouveaux débouchés.
Et la piste proposée à Schwartz, eh ben, c'est une entreprise de béton. Il suffit juste d'écarter le propriétaire juif, mais les procédures d'aryanisation ont déjà commencé. Parti pris feuilletonesque aussi. Parce que, dit le scénariste, vous voyez, il y a des centaines de milliers de jeunes hommes, les Allemands, et il y a des centaines de milliers de jeunes femmes, les Françaises en attente d'un amour, en désespérance parce que leur mari est de l'autre côté en Allemagne, prisonnier.
Bien sûr, la défaite, l'occupation bouleverse la vie quotidienne, mais bouleverse aussi la vie intime. Les familles sont éclatées, parfois du fait des circonstances. Il y a des familles dont une partie se retrouve en zone occupée, l'autre en zone libre.
Oui, mais j'attendais que vous me disiez, on en fait un peu trop là quand même.
On en fait peut-être un peu trop, mais ça correspond quand même à une certaine réalité, puisque l'historien Fabrice Virgili, qui fait autorité sur cette question, a avancé le chiffre de 100 000 enfants qui seraient nés des amours entre des Françaises et des soldats allemands au cours de la période.
Donc Jeannine, la femme de Schwarz, l'admire parce qu'il a réussi à récupérer l'entreprise juive, mais comme elle préfère l'original à la copie, elle va aller du côté allemand. Hortense, la femme du bon docteur, va aller aussi avec un Allemand. Marchetti, l'inspecteur de police qui va verser dans la collaboration avec une juive. Raymond Schwarz, déçu avec Marie, qui est résistante. Allez, on a choisi une scène parmi d'autres. Le 23 octobre 1941, entre Kurt, un caporal allemand, et l'institutrice Lucienne, qui est enceinte de lui et songe bien sûr à avorter. Kurt va être envoyé en Allemagne par ses supérieurs.
Au début, j'ai pensé refuser, évidemment. Et puis, j'ai réfléchi.
Lucienne, est-ce que tu veux devenir ma femme ? Je partirai le premier en Allemagne et tu me rejoins quelques semaines plus tard et on se marie. Là-bas, ça ne posera pas de problème d'épouser une Française. Et puis mes parents seront surpris, mais quand je leur dirai qu'on attend un enfant, ils accepteront.
En Allemagne ? Je sais pas, ça voudrait dire que je quitterai tout. Mon métier, mon père, je le reverrai plus.
Avec le temps, les choses vont s'apaiser. La guerre finira.
Et je parle pas allemand ?
Tu apprendras.
C'est une grande décision. Laisse-moi un peu de temps, d'accord ?
Je sais. Mais le problème, c'est que Kollwitz attend ma réponse ce soir. J'ai la journée pour te décider.
Et à peine Kurt a-t-il tourné le dos que le directeur de l'école reçoit évidemment une lettre anonyme lui dénonçant la liaison de son institutrice avec Kurt, avec l'allemand. Je reviens toujours au témoin, le témoin qui était là dans le Jura, Léon Werth, 24 juin 41. Le préfet du Jura communique qu'il ne tiendra plus compte des lettres anonymes. Le préfet du Jura lui-même trouve que ses administrés exagèrent.
Oui, il y a certainement des millions de lettres de délation qui ont été envoyées sous l'occupation aux différentes autorités compétentes. On dénonce tout, on dénonce une personne qui aurait injurié le maréchal Pétain, une autre qui se livrerait à des trafics du marché noir, une troisième enfin qui aurait des idées plutôt pro-gaulliste, jusqu'effectivement aux questions d'Luther. D'ailleurs, c'est encouragé par le régime de Vichy, puisque ce régime qui cherche à imposer une morale développe une législation répressive contre les femmes de prisonniers.
L'administration de Vichy n'encourage pas nécessairement l'envoi de lettres anonymes.
En fait, ils sont débordés. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, on se rend compte qu'il y a tellement de lettres et que derrière ces lettres, il y a tout et n'importe quoi que par pragmatisme, on préfère effectivement ne pas mener une enquête sur chaque lettre que l'on reçoit.
Les débuts de la résistance. Léon Werth à Saint-Amour, le vrai témoin, il dit qu'il y a un type étonnant dès 1940 qui s'appelle le père François. Alors il a des tracts dans son tablier, des tracts dans ses poches. Il fait des tracts qu'il met dans les trous des murs. Mais décembre 40, ce texte des autorités, la découverte de tracts extrémistes sur le territoire d'une commune entraînera l'internement administratif des militants communistes notoirement connus. Et ici, nous sommes un peu plus tard, quand les communistes sont encore au temps des tracts, mais aussi au temps des attentats. 25 octobre 1941, le docteur Larcher, j'insiste pour ceux qui n'ont pas suivi un village français comme vous, pas à pas, est le maire de la commune, mais son frère, Marcel, est un militant communiste. Et les deux frères se retrouvent dans une scène violente.
T'as volé un pistolet hier, chez Madame Berthe. Marcel, c'est grave. Les Allemands sont au courant, ils savent que c'est toi. Ils peuvent débarquer ici d'une minute à l'autre.
Si c'est ce qu'ils voulaient, ils l'auraient déjà fait.
La détention d'armes est punie de mort, et toi t'en as volé une à un officier, et ils le savent. Marcel, tu peux pas faire une chose pareille. Tous les otages sont des communistes, comme toi. Ils en ont fusillé 50 à Châteaubriand, 50 à Bordeaux. T'as donc perdu tout sens de l'humanité ? Tu es un homme. provoquer la mort de dizaines d'autres qui sont tes amis, tes camarades. Tu veux me dire à quoi ça sert? Tu m'écoutes pas.
Il faut que j'y aille tout de suite.
Oui, bien sûr. Et Gustave, tu as pensé à Gustave?
Gustave?
Le môme de 10 ans dont tu es le père et qui n'a que toi au monde. Gustave, tu vas encore me fourguer comme un paquet.
Mais je suis censé faire quoi dans ta vision du monde? Me rendre aux Allemands? Ils me fusilleront! Dénoncer mes camarades?
Tu pourrais passer en Suisse. Je me débrouillerai pour t'envoyer Gustave.
Ça marche pas comme ça, la vie, tu le sais bien.
Bon, le focus, vous l'avez dit, est déjà mis particulièrement sur la résistance communiste, qui n'a pas été nécessairement la première et la seule, notamment dans le Jura. Là, on est quand même dans un moment très important, où d'ailleurs, les différentes tendances, toutes minoritaires à l'époque de la résistance, n'interprètent pas les choix du Parti communiste de la même manière.
Oui, c'est un moment de basculement, parce que la première année de l'occupation, les premières formes de résistance, c'est surtout de la contre-propagande. Comme vous l'avez dit, on distribue des tracts, et l'objectif, c'est de montrer aux Français que il y a toujours un espoir, qu'il y a une autre possibilité que la collaboration et que le régime de Vichy. Ce basculement de l'été 41 s'explique par un contexte mondial qui a changé du fait de l'attaque de l'URSS par les forces de la Wehrmacht. Et en fait, l'ordre vient de Moscou. C'est Moscou qui demande aux communistes français de passer à l'action directe pour empêcher les Allemands de porter tout leur effort de guerre sur l'URSS et pour les obliger à maintenir des divisions en France. Et donc, les premiers attentats ont lieu au cours de l'été 1941, au métro Barbès, le colonel Fabien, à Nantes également. Mais ils sont désavoués par l'opinion qui ne comprend pas ces attentats du fait des représailles, puisque effectivement, les Allemands se livrent à des représailles terribles. L'affaire la plus connue, ce sont les otages de Chateaubriand. Et de Gaulle lui-même, d'ailleurs, sur les ondes de la BBC, appelle à cesser ce genre d'attentats aveugles, parce que les premières victimes, en fait, ce sont surtout les Français.
Le docteur Larcher, quand il fait des reproches à son frère, entend ce que vous dites, là, Fabrice Grenard, qui était répercuté dans l'opinion un peu partout. Mais il lance aussi un avertissement à son frère et Gustave. Alors Gustave, c'est le fils qui va devenir un voyou, parce qu'il est abandonné. Les jeunes dirigeants communistes, les jeunes militants communistes qui sont là, Yvon, la courroie de transmission du parti, Marcel qui est sur place, on a l'impression qu'ils sont déliés de toute attache sentimentale. J'allais dire que c'était les vrais prêtres. Ils sont dans le sacerdoce.
Là aussi, il faut bien comprendre le contexte. Le Parti communiste a été interdit dès septembre 1939, avant même l'occupation, et du fait des conséquences du pacte germano-soviétique. Et ceux qui restent fidèles à l'appareil, ceux qui acceptent de militer dans la clandestinité, sont véritablement les personnes les plus engagées idéologiquement, pour qui le parti l'emporte sur tout. Donc évidemment, pour ces gens-là, la cause du parti est la priorité.
Moment de basculement encore, le 20 juillet 1942, un train qui transporte des juifs étrangers qui viennent d'être raflés à Paris est immobilisé en gare de Villeneuve. Le maire, Larcher, je n'ai pas dit que c'était Robert Reducci qui l'interprétait, s'en va voir le directeur de l'école, Berriot, dont on se demande pourquoi il est tellement embarrassé par les volontés du maire.
Ah, monsieur Berriot. Nous avons une petite crise. 80 juifs étrangers raflés hier dans des villes de l'Est sont en rade. Ils étaient dans un train militaire allemand qui est reparti pour ailleurs. Un nouveau train doit bien les chercher, mais ça prendra bien un jour ou deux. Et ces gens-là ont faim, il y a des malades, il faut un lit, un lavabo. C'est pourquoi j'ai pensé à l'école. C'est les vacances, vous n'êtes pas les enfants. Il y a des salles assez grandes, et surtout, vous avez tous ces lits de camp stockés par l'armée en 40.
Les lits de camp? Ça ne me paraît pas possible, monsieur le maire.
Comment ça, pas possible? Ils sont bien dans les caves, ces lits de camp, non?
Oui, enfin, il me semble.
Bon, et alors? L'école est le seul bâtiment disponible. Je veux dire, qu'il y ait des sanitaires, l'eau courante...
Mais enfin, l'école n'est pas un lieu de détention, tout de même.
Mais il ne s'agit pas de détention, il s'agit de transit. Et puis, vous n'avez pas les enfants. Bon Dieu, je vous comprends pas, Berriot.
Mais je n'ai rien à leur donner à manger. J'ai pas de serviette, j'ai pas de drap.
Pour la nourriture, on a saisi un entrepôt de marché noir hier. Il y en aura bien pour deux jours. Il y a un moment, monsieur Berriot, où il faut penser à autre chose qu'à votre petit intérêt personnel, vous savez.
C'est intéressant ce dialogue, parce que celui qui paraît le plus humain, sur le moment, c'est le maire, et Berriot paraît indifférent, et c'est qu'il a caché une presse pour imprimer des tracts dans la cave de l'école, et c'est ça le motif de son embarras. Larcher paraît le plus humain en apparence, mais il va refuser à une famille juive qui lui propose d'ailleurs de l'argent de laisser fuir femmes et enfants. au nom d'une volonté de justice, pourquoi privilégier là ceci plutôt que cela? Il y a une des 100 questions sur l'occupation que vous posez avec Jean-Pierre Azéma dans votre livre, Fabrice Grenard, chez Talendier, qui porte d'ailleurs sur les maires.
Oui, on ne dit plus les maires en fait, on dit même les présidents de délégations spéciales, puisqu'ils ne sont plus élus comme avant la guerre. Ils sont nommés directement par le régime de Vichy, qui met à la tête des différentes communes en place le plus souvent des notables locaux qui ont une certaine expérience et qui peuvent être appréciés de la population. Et ces présidents de délégations spéciales sont véritablement intéressant pour comprendre à une échelle locale tous les enjeux de la période, puisque ce sont eux qui ont été confrontés à tous les problèmes. La question des relations avec les autorités occupantes, la gestion des problèmes de ravitaillement, l'accueil des réfugiés lorsqu'il y en a, et puis progressivement aussi, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux activités de résistantes qui deviennent de plus en plus visibles.
Anecdote de tournage, à lire les articles, il semblerait que les figurants de cette scène de la gare, qui se termine aussi par une rafle des Juifs étrangers, présent à Villeneuve, se soit mis spontanément à 150 à chanter Nuit et brouillard.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Vous étiez 20 et 100. Vous étiez des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Fabrice Grenard qui a regardé avec vous, avant vous, Un village français dont c'est la dernière saison sur France 3. Un autre grand moment de basculement, c'est en juin 42, le même été, la proposition du gouvernement Laval de service du travail obligatoire. Léon Werth, déposition à Saint-Amour. Sur la porte d'une grange, une affiche invite les ouvriers et les ouvrières à aller travailler en Allemagne dans la dignité et sous la protection du gouvernement français. Une affiche qui, posée du jour, paraît le seul endroit frais du village, sur fond blanc, caractère bleu, caractère rouge, éclatant. Et ça va permettre le développement des maquis. Et le maquis, c'est il existe en grand nombre dans le Jura. Il y a même un faux maquis, dites-vous, dans le Jura.
Oui, bien sûr. Alors, d'abord, la constitution des maquis est quelque chose de tout à fait important, puisque jusqu'en 42, on peut dire que la résistance manquait de troupes. Avec les réfractaires, tout d'un coup, la résistance bénéficie de troupes qu'on va intégrer dans les maquis. Effectivement, le Jura a été un véritable territoire de maquis, avec notamment un moment tout à fait symbolique. C'est le chef des maquis du Jura, le capitaine Henri Roman Petit, qui décide le 11 novembre 1943 d'organiser un défilé de ces maquisards dans cette petite bourgade d'Oyonnax. Et d'ailleurs, la scène est retranscrite
Dans un village français dont le maire n'est plus Larcher, qui a été destitué pour sa gestion jugée approximative du passage des Juifs étrangers dans la commune. Néanmoins, convient, c'est la dernière saison, le temps de l'épuration, il va se retrouver en difficulté. Le Parisien, aujourd'hui, un village français à l'heure des comptes. Ouest-France, un village français à soif de vengeance. Le meilleur titre, c'est l'Obs. L'Obs, l'épuration tirée par les cheveux. Alors, il y a l'épuration extrajudiciaire, vous dites 9000 victimes dans votre livre.
Oui, c'est ça.
Et puis l'épuration judiciaire avec 311 000 dossiers, je vous cite, ouverts par la justice. Et à la suite des procès, 6000 peines de mort seront prononcées, 767 exécutées, 13000 peines de travaux forcés, 25000 peines de prison. C'est-à-dire que l'enjeu est lourd pour le docteur Larcher, à qui vont être reprochés, une fois encore, mais dans un sens différent de celui qu'avait fixé l'administration allemande, son attitude au moment du passage des Juifs en gare.
Vous ne pouvez pas me reprocher ce qui est arrivé aux juifs de l'école. J'ai démissionné pour ne pas participer à ça.
Vous avez repris votre démission 3 jours après, non?
Oui, mais c'était pour...
Je peux poser une question, monsieur Larcher. Vous ne vous souvenez pas que je vous ai demandé de nous faire sortir de là-bas?
Si. Vous m'avez proposé de l'argent. Et j'ai refusé.
Résultat, ma femme et mes enfants ont été gazés le jour de leur arrivée au camp. Et vous dites que vous n'êtes pour rien.
Je prends les jurés à témoin. Aurait-il été juste de laisser partir la famille Golmoutz parce qu'ils avaient de l'argent et pas les autres? Aurait-ce été moral?
Résultat, vous n'avez laissé partir personne. Et tous ceux de l'école sont morts. 140 hommes, femmes et enfants. Excepté moi et 4 ou 5 autres. Elle est belle, votre morale.
Mais je ne savais pas qu'ils allaient à la mort.
C'est pas vrai. En disant cela, vous les tuez une seconde fois.
Je ne le savais pas.
S'il vous plaît, allons. Enfin.
Léon Werth cite le nom d'Auschwitz dès 1942 dans des positions. Il observe les choses de loin, sans beaucoup d'informations, à Saint-Amour, dans le Jura. Et il conclut sur la période en disant « Il n'y a pas la différence d'une blanc et du noir. Complication de l'homme, étanchéité de ses comportements. » Quelques nuances de gris, c'est le parti pris d'un village français.
Oui, et qui en fait correspond à ce que les historiens appellent les ambivalences de la période depuis plusieurs décennies. Et c'est d'ailleurs la force de cette série, c'est de sortir d'une vision totalement manichéenne de la période, les résistants, les collaborateurs, pour montrer des trajectoires qui sont très révélatrices de la période. On pouvait être agriculteur, faire du marché noir avec les Allemands, aider les réfractaires ESTO, être un militant actif de la résistance. On pouvait être chef d'entreprise, faire de la collaboration économique tout en finançant la résistance. On pouvait être maire de village, président de délégation spéciale comme Daniel Larcher, et faire à la fois des gestes un petit peu compromettants, mais chercher aussi à aider les différents administrés de la commune.
Cependant, si cette série avait été projetée il y a une génération, on en entend le générique, elle aurait provoqué, comme le chagrin et la pitié, une violente polémique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'on s'éloigne de cette période. Une nouvelle génération qui n'a pas connu ces événements découvre, en fait, à travers cette série, ce qu'a été l'occupation. Et donc,
oui, enfin, cependant, Robin Renucci laisse entendre partout qu'il faudrait une dernière saison consacrée à la reconstruction, à l'application du plan du CNR et à l'idée de solidarité. Parce qu'il y a un adjectif quand même qui caractérise, selon vous, la dernière saison qu'on va commencer à voir dès ce soir.
Oui, je la trouve assez cynique, c'est vrai. Parce qu'on voit quand même des résistants qui s'en sortent plutôt mal, quelques collaborateurs qui s'en sortent plutôt bien. Il y a des trajectoires qui nous montrent ça, mais il faut aussi ensuite continuer pour voir ce que deviennent tous ces gens.
Il faudrait, c'est un appel alors à France 3 et à la société Tetramédia qui a produit Un village français. L'émission a été préparée par Frédéric Martin avec à la réalisation Stéphane Ronxin et à la technique Mehdi Fatah.